Luc chapitre 12, et je commence à lire au verset 22, et nous irons jusqu'au verset 32. C'est le Seigneur qui parle. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est là le titre de notre étude, c'est ce verset 32. Ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau. Combien de fois est-ce que nous avons dit à un enfant « N'aie pas peur » lorsqu'il hésite devant une nouvelle situation, une nouvelle expérience, surtout s'il voit venir vers lui une personne avec une blouse blanche, armée d'une aiguille plus longue que celle qu'il n'a jamais vue auparavant, et puis on lui dit « N'aie pas peur hein ?» Tout d'un coup, ce qui devient important, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à celui qui dit « n'aie pas peur ». C'est ça, parce que c'est une nouvelle expérience. Est-ce que celui qui me dit « n'aie pas peur », est-ce que je peux lui faire confiance? C'est là la situation dans laquelle se trouve cet enfant. Et finalement, que nous aussi, que nous pouvons être là et puis dire « mais il me dit « n'aie pas peur ». Mais qui est-ce qui me dit cela hein? Et n'est-ce pas ce que disait Jésus à Jairus, que sa petite fille, il venait d'apprendre que sa fille de 12 ans venait de mourir. Et vous imaginez ce que ça peut faire pour un père. Déjà, il était paniqué parce qu'elle était mourante. Et puis là, tout d'un coup, quelqu'un vient lui dire, écoute, c'est trop tard, elle est morte. Mais c'est à l'instant même que Jésus se tourne vers ce père. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Si c'était moi qui le disais à ce père, il dit, bon, t'es gentil, mais voilà. Mais là, c'était Jésus qui le disait. Et ça changeait tout. Ce chef de synagogue, jusque-là, il avait la foi pour croire que Jésus pouvait guérir. Mais il n'avait pas la foi pour croire que Jésus pouvait ressusciter. C'est pour ça la panique. Finalement, Jésus n'était pas paniqué, Jésus traînait, puis finalement il s'est occupé de quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est... bon, moi j'aurais réagi comme le Père, moi, je vous l'avoue. Mais la question, c'est une question de confiance. C'est une question de ce que je pense de Dieu, de quoi il est capable. Si mon Dieu est petit, c'est sûr que j'ai ample raison pour me faire du souci dans la vie. Mais si mon Dieu est grand, et s'il peut intervenir en toutes choses, ça change tout, ça change ma manière de voir. Hein? C'est comme l'enfant qui se promène dans un quartier où, un peu difficile, ben, quand il est tout seul, il tremble. Quand il y a papa avec lui, il n'a pas peur. Pourquoi ? Parce que son père, c'est le plus fort du monde. En tous les cas, il le croit jusqu'à un certain âge. Après, il sait que ce n'est pas vrai. Bon, mais c'est une question de qui me dit n'aie pas peur. Hein, c'est ça, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que les impressions que j'ai qui font la différence. C'est qui est celui qui me dit de ne pas avoir peur. Et il n'y a rien de plus naturel que d'hésiter devant l'inconnu ou ou ce qui est totalement nouveau. Hein, c'est sûr qu'on s'arrête et on hésite. Et c'est là où on a besoin de quelqu'un pour nous dire, quelqu'un de confiance pour nous dire, tu peux y aller. Je me rappelle, c'était Madame Zandry, hein, et, qui allait au mariage de ma fille et dans le nord, l'ouest de New York, l'état de New York, et c'était en février, plein hiver, et puis elle vient des Antilles, hein. Donc quand je l'amène au bord d'un lac et c'est couvert de glace, je lui dis, tu peux marcher dessus. J'avais fait ça. Je dis, non, tu peux y aller. Bon, j'y étais au premier, hein, ça l'a rassuré. Mais c'est une question de, oui, quand c'est une nouvelle expérience, on hésite. Et c'est pareil, hein, tous les jours de notre vie. Et Jésus dit à ses disciples, il dit, ne crains point, petit troupeau. Petite parenthèse, je vais rappeler une règle d'interprétation de la Bible qui recommande que chaque fois qu'il y a une promesse, il faut se poser la question, à qui est-elle adressée ? C'est pas parce que, c'est beau ça, je prends ça pour moi. Peut-être que ce n'était pas pour toi. Hein? Il faut toujours lire le contexte pour savoir si c'est pour moi, ça a été dit pour moi, ou si ça a été dit pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de promesses dans la Bible, bon, qui sont pour Israël, qui sont pour la situation présente, c'était pour toutes sortes de choses. Hein? Parce que, quand le Seigneur dit à un disciple, allez dans la ville voisine, et puis vous avez trouvé un anneau, et puis prenez-le, et puis si quelqu'un vous demande la question, dites c'est pour le maître, et puis ça marchera. Ben, n'essayez pas ça aujourd'hui, hein, s'il y a Fréjus, ça risque de ne pas marcher. Parce que ce n'est pas pour vous, c'était pour eux. Mais ici, la question, c'est quand Jésus dit, ne crains pas petit troupeau, est-ce que c'est d'abord pour qui est-ce qu'il dit cela? Et puis, est-ce que ça, par extension, c'est est-ce que nous sommes inclus? Et très vite, dans le verset 22, hein, donc là où on a commencé, il nous dit, Jésus dit à ses disciples. Donc, en premier lieu, c'était pour les disciples, c'était pour eux. Bien sûr, nous comprenons par la suite que les disciples, finalement, ils représentaient toute la suite. Hein, c'était eux, les premiers éléments, et puis par la suite, les apôtres. Et dans la prière du Seigneur, dans Jean 10, il parle des disciples et tous ceux qui croiraient à leur message. Hein, donc, en fait, ce que Jésus est en train de dire, petit troupeau, ça passe jusqu'à tous les disciples dorénavant. Hein. Et quand il dit ne crains pas petit troupeau, c'est pas un reproche. Hein, il n'est pas en train de la critiquer pour quelque chose. Mais c'est vrai que il est en train de leur dire, écoutez, vous allez avoir une autre vie. Hein, c'est plus comme il y en avait quelques-uns dans le groupe là qui savait faire la pêche et il savait se comporter sur la mer de Galilée en tous les cas. Mais ils allaient mener une autre vie. Hein, il suffit de lire les Actes des Apôtres pour savoir que c'était une autre vie.
Et puis, il y en avait un là qui savait faire collecter les impôts pour Rome, mais il n'allait plus faire cela. Hein, ça y est, quand le Seigneur a dit « Suis-moi », c'était pour faire autre chose. Et c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui nous prépare? Hein? Et dans un sens, oui, nous venons, nous rencontrons le Seigneur, il y a un jour on a compris, on a saisi, on a vu le Seigneur, mais après il nous parle d'une vie à mener. Il dit, oh, là ça me fait peur. Hein? Là c'est quoi? Hein? Je sais faire ce que j'ai fait jusque-là, même si je l'ai mal fait, mais ce qui m'attend pour le Seigneur et vivre pour le Seigneur, comment je vais faire ça? Comment ça? Qu'est-ce qui m'attend? Et cette promesse aussi, quand il dit « ne crains pas, petit troupeau », eh bien, vous ne pouvez pas vous servir de ça pour n'importe qui, pour lui rassurer. Hein, s'ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ, s'ils ne sont pas quelqu'un qui marche selon la parole, ce n'est pas pour eux, hein, il ne faut pas leur dire ça, et puis leur mettre ça sur une petite carte et leur envoyer ça. Ça n'a aucun pouvoir, enfin, pas plus que... beaucoup de choses qu'on dit, hein, de bonne année, hein, le truc qui... Il n'y a pas de pouvoir derrière. Mais il dit, ne crains pas, petit troupeau, c'est pour les disciples, c'est pour ceux qui seront disciples, ceux qui sont encore disciples, eh bien, ne crains pas, petit troupeau. C'est vrai qu'en employant l'expression petit troupeau, il parlait de leur faiblesse, que... Eux, c'est pas une grande armée qui a des pouvoirs et dit, vous n'avez rien à craindre, vous êtes puissants. Non, non, c'est petit troupeau. Et petit troupeau sur une montagne, c'est drôlement exposé. Hein? Et il dit, ne craignez pas, petit troupeau. En fait, moi, je prends ça plus comme une parole d'affection. Hein, petit troupeau. Hein, c'est un peu, vous savez, vous entendez les mamans qui disent à leur petite fille, n'aie pas peur, ma petite puce. Bon, heureusement que la fille, elle prend pas ça littéralement, hein, parce que c'est pas flatteur. Mais elle comprend que c'est affectueux. Hein. Et dans un sens, ses disciples, c'était pas pour dire, ouais, ben, écoutez, vous êtes des petits, pas grand-chose, hein, n'oubliez pas. Non, non, c'est affectueux, petit troupeau, mais je suis le berger. Jésus va s'entretenir avec ses disciples, et c'est là le contexte de ce passage, il va s'entretenir avec eux sur l'équilibre qu'il va falloir entretenir dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de se comporter, une nouvelle manière de réagir par rapport aux éléments et aux événements. Et donc, il est en train de leur parler, donc, et ces paroles sont là pour cela. Juste avant, le passage qui précède ce qu'on a lu, hein, donc à partir du verset 13 jusqu'à 21, eh bien, Jésus venait de raconter une parabole. Quelqu'un était venu voir Jésus et pour lui dire, écoute, dis à mon frère de partager l'héritage. Apparemment, c'est un problème qui est un peu ancien, celui-là. Et Jésus dit, moi, je ne suis pas venu pour faire ça, je ne suis pas juge, je ne suis pas là pour faire ça, je ne rentre pas là-dedans. Mais il en profite pour... donner une parabole et faire une leçon. Et donc, il parle de cet homme qui a eu une excellente récolte et tellement bonne récolte qu'il s'est dit, mais je n'ai même pas des greniers suffisants pour tout cela. Si je vends tout de suite, ce sera moins cher parce que tout le monde a eu la même bonne année que moi. Hein, donc le marché, le prix va baisser. Alors lui, il a eu la bonne idée, il dit, ah, je vais investir, je vais construire de plus grands greniers, je vais garder ça, et puis après, quand il y aura une année, une mauvaise année, moi j'aurai du grain à vendre, et ça rapportera beaucoup. Et puis dans un sens, il se dit, mon âme, écoute, Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Écoute, tiens, le compte en banque il est plein, l'assurance vie c'est à jour, la voiture elle est récente, en plus elle est électrique donc il n'y a pas de problème, et tout est bon. En fait, il s'est mis dans une situation où il a dit j'ai plus à m'inquiéter. J'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit. J'ai pensé à tout, tout est. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une voix qui vient du ciel. Et au verset 20, il dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il dit, il en est ainsi de celui qui amasse ses trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il dit, tout d'un coup, Dieu lui parle et lui fait penser à un scénario auquel il n'a pas pensé. Et si il t'arrive quelque chose ce soir, et si tu pars ce soir, le Seigneur te redemande ton âme, et tout ça, c'est pour qui ce sera, hein, tu passes à qui? Et finalement, Jésus est en train de... Il n'est pas en train de critiquer ceux qui ont des biens, il n'est pas en train de critiquer. Il est en train de dire, mais soyons équilibrés, pensons, hein, donnons la juste valeur. Cet homme, il a tout misé sur le matériel. Et finalement, il s'est trouvé démuni pour ce qui est du spirituel, de sa relation avec Dieu. Et donc, finalement, il n'était pas équilibré. Peut-être qu'il s'est mis dans une situation où il ne s'inquiétait plus, comme beaucoup de nos jours, hein, se sont mis dans des situations où ils ne s'inquiètent plus, plus ou moins. Mais et le Seigneur dit, je sais, il faut un équilibre. Hein. Et le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors ici sur terre. Hein, c'est ça qu'il dira dans le sermon sur la montagne. Où ça peut se perdre. Mais... soyez riches pour Dieu. Je lis le passage dans Matthieu chapitre 6. Hein, c'est la même situation, c'est le sermon sur la montagne, mais c'est plus complet. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Finalement, c'est la question à se poser. Hein? Où veux-tu me placer ton cœur? Ah, moi j'aime Dieu. Alors, mets ton trésor là, à côté de lui. Hein? Comme ça, tu penses à lui. Et après le trésor, ben après pour chacun, c'est le trésor, c'est ce que je trouve précieux. Hein, si j'entends les pompiers devant la maison, ce que je prends en sortant. Hein, c'est ça mon trésor. Dans ce passage que nous avons lu, eh bien, vous avez peut-être remarqué que le Seigneur emploie souvent le verbe « s'inquiéter ». Ou bien sa forme nominale, l'inquiétude. Et il souligne pour les disciples, hein, dans les versets 22 jusqu'à 31, il est en train de souligner pas mal de réalités et qu'il attire l'attention des disciples. Dans les versets 22 et 23, il dit « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh bien, l'inquiétude, hein, le fait de se faire des soucis, hein, il y a aussi l'expression de se faire du mauvais sang. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tous les cas. C'est, il dit, s'inquiéter, eh bien, ne peut pas améliorer votre qualité de vie. Les choses ne vont pas mieux parce que je m'inquiète. Puis moi, je l'ai vérifié même, hein, je m'en raconte. Hein, je ne sais pas si vous avez pu le vérifier, mais moi j'ai pu le vérifier. Finalement, ça ne change rien. Hein. Se mordre les doigts, comme on dit, ronger les ongles, et puis on perd les cheveux, et puis toutes sortes de choses. Ça n'améliore pas la qualité de vie. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'inquiéter? Ben, c'est parce qu'on a quelque part, il y a quelque chose qui nous rassure. Hein. Mais celui qui n'a rien, ben, c'est sûr qu'il s'inquiète. Verset 24, il dit « Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ?» Et ce n'est pas une question de nous comparer à des corbeaux, ou à des oiseaux, et n'importe lequel vous voulez, mais il est en train de parler, votre inquiétude ne peut pas augmenter votre valeur. Hein, devant Dieu. Vous avez déjà une grande valeur. Hein, et le Seigneur nous l'a communiqué sur la croix. Hein, c'est là où il a montré combien, quelle valeur nous avions à ses yeux. Hein, combien il était prêt à payer. Hein. C'est un peu comme quand vous allez où on vend les articles anciens, tout ça. Brocante, vous allez dans la brocante, eh bien, qu'est-ce qui décide le prix? Eh bien, c'est celui qui vend, il essaie de deviner combien vous êtes prêt à payer, et puis vous essayez de cacher combien vous êtes prêt à payer pour l'avoir. Hein, et puis, alors, c'est un petit jeu. C'est ça qui décide le prix. Hein, et... vous savez, le Seigneur, il a dit, je vous dis carrément tout de suite combien vous valez pour moi. C'est comme si vous rentrez dans la brocante et vous voyez un truc ancien là, et normalement, hein, même le gars, il n'aurait pas osé demander plus que... Et vous vous dites, moi, je donne 10 000 euros. Le gars, il dit, combien? Moi, je donne carrément 10 000 euros, je veux ça, parce que je le veux. Oh, ben, si vous voulez, hein. Allez-y. Pourquoi on ne fait pas ça avec le Seigneur? Il a dit, vous, écoutez, je sais, sur le marché, certains valent plus que d'autres. Parfois c'est à cause du diplôme, parfois à cause c'est le nom de famille qu'on porte, parfois c'est tout. Dans la société, les valeurs se décident de différentes manières. Mais le Seigneur vient carrément et vous dit, écoutez, moi, pour moi, vous valez le sang de mon fils Jésus-Christ. Je paye le grand prix, le maximum, voilà, tout de suite. Seigneur, c'est ça que tu veux payer pour moi? Moi, je n'aurais pas payé ça pour moi. Il dit, mais ça, c'est ça le prix que je veux payer. Tu acceptes? Normalement, si on était dans la brocante, le gars, il ne refuserait pas, hein, il réfléchit, il dit, on va vite faire l'achat avant qu'il change d'idée. Et pourquoi avec Dieu on hésite? Il a dit, voilà ce que vous valez. Hein, il le dit, Pierre, qui reprend ça, et lui qui a marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi, il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il dit, le prix qu'il a payé, il a avancé, il a dit, voilà ce que je paye. Je paye le sang précieux de mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà ce que je paye. Vous prenez? Et
Il dit, donc ce n'est pas par tes inquiétudes, ce n'est pas en te faisant du mauvais sang, et ces temps-ci, on apprend que les étudiants, ils sont en train de passer par des moments difficiles parce que leur carrière est menacée, parce que le travail, parce que ceci, cela, l'avenir semble pas leur promettre beaucoup de choses, et certains passent par des moments très difficiles, qu'ils vivent très mal. Le Seigneur dit, écoutez, moi, voilà ce que vous valez pour moi, et si j'ai payé un tel prix, c'est que j'ai l'intention de vous garder, n'est-ce pas? Il dit, c'est pas la peine de vous faire du souci, de vous inquiéter, ça ne changera rien à ce que vous valez. Moi, j'ai décidé ce que vous valez. Et puis, alors, les versets 25 à 26, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Il dit, qu'est-ce que tu peux faire en t'inquiétant, en te faisant du souci? Qu'est-ce que ça réalise? Alors pourquoi est-ce que tu t'en sers tant? Pourquoi est-ce que tu te laisses détruire par ça? Quand finalement, ça ne change rien du tout. Ça ne va pas te faire vivre même pas un jour de plus. La réalité, hein, et je n'ai pas besoin de faire tout un argument là-dessus, mais certainement que ça diminuera le nombre de jours. Hein, vous savez que le souci, ils peuvent entraîner des ennuis de santé. Hein, donc, il dit, l'ennui, écoute, si ce n'est pas profitable, si ça ne va rien t'apporter, ben ne le fais pas. Et oui, mais avant, je fais quoi alors? Ben, tu fais confiance. Tu trouves quelqu'un de confiance et tu te confies à lui. Et après, les versets 27 et 28, jusqu'à 29, il dit, considérez comment croissent les lys. Il ne travaille ni le fil, cependant vous, je vous dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Il dit, ce sont les païens qui ont ces pensées-là, ces préoccupations-là. Ben, et un peu oui, parce que eux, ils n'ont pas de Père Céleste qui s'occupe d'eux. Eux n'ont pas Dieu. Ils sont tout seuls, ils ont décidé de vivre tout seuls, se débrouiller tout seuls. Hein? C'est-à-dire tout seul, mais vous savez, si j'étais un petit poussin et je descends le trottoir et puis je vois des chats de tous les côtés, c'est sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et certains vivent la vie comme ça. Hein, ils ne voient que des menaces. Et puis bien sûr, vous savez que les menaces, une fois qu'on commence à se faire du souci et commence à avoir peur, après ça devient encore plus grand que la réalité. Et il y a de quoi effrayer. Et il y en a qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Et il dit, pourquoi rechercher uniquement cela si finalement ça ne règle pas le problème? Finalement, ça ne t'apporte pas la paix. Hein, tu peux avoir toute la nourriture, tu peux t'asseoir sur... Hein, c'était quand que les gens... aux États-Unis, une fois, c'était quand on est passé de 1999 à 2000. Vous vous rappelez, on était sûr que le monde allait s'arrêter. Et il y en a qui ont, ils ont rempli, ils ont acheté les conserves, et puis les légumes secs, et ceci, et puis ils en avaient plein jusqu'à... Et puis finalement...
la nuit elle est passée, et les ordinateurs ne sont pas arrêtés, et Pierre a continué. Et tout le souci, toutes les discussions, oh là là. Bon, c'est arrivé un peu aussi, un peu juste avant le confinement, là. Tout d'un coup, on entendait parler du confinement, tout d'un coup, tout le monde était au supermarché, et ils ont fait le plein. Vous savez, si s'il n'y a que ça dans ta vie, ben c'est sûr que tu paniques, c'est sûr que tu t'inquiètes. Mais en fait, Jésus est en train de dire aux disciples, écoutez, pour les disciples de Jésus-Christ, pour ceux qui ont un Père dans le ciel, eh bien, voyez plus grand, voyez plus loin, aspirez à plus, à beaucoup plus que cela. Ne vous limitez pas à ce que les animaux dans les champs, hein, ils se lèvent, ils ont faim, ils chassent, ils mangent, ils se reposent, puis on attend d'avoir faim une deuxième fois, puis ils repartent. Oui, mais ça c'est les oiseaux, c'est les renards, c'est tout. Mais nous sommes les enfants du Père Céleste. On vaut beaucoup plus que cela. Et on peut apporter beaucoup plus. On peut regarder beaucoup plus loin. La foi nous permet d'aller voir plus loin que les yeux. Vous savez, les chrétiens de Philippe, eh bien, ils avaient trouvé un équilibre dans ce domaine. Et c'était pas qu'ils étaient dans l'abondance, mais ils ont vu le besoin chez Paul et ils ont participé à son besoin dans le ministère. Et vous savez comment Paul a répondu? Je vous lis le passage, c'est en Philippiens, chapitre 4, et je lis les versets 18 et 19. Voilà ce qu'il dit. Il dit, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il dit, vous avez vu plus loin que votre vie de tous les jours. Et vous avez voulu investir dans le ministère que j'ai pour le Seigneur. Et il a dit, et puis finalement, eh bien écoutez, vous savez ce qui va se passer? C'est que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Je vous laisse calculer la richesse du Seigneur. Avec gloire en Jésus-Christ. Il dit, Jésus n'est pas en train de dire, écoute, tu ne penses pas, ne fais pas les courses, le frigo, tu te réveilleras le matin, il sera plein. Non, il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire, mais ne limite pas ta vue à ce qui est immédiat et ce qui est essentiel. Vois plus grand. Vois plus grand. Parce que tu es un grand Dieu. Et puis, il dit, et tu sais, en regardant, en voyant plus grand, eh bien, les petits besoins de tous les jours, ben, ça sera réglé, hein. Ça sera pourvu. Le Seigneur nous rappelle que le Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. C'est ça qu'il dit au verset 30. Il dit, votre Père, c'est la fin du verset, il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il a dit, lui, il sait. Pourquoi est-ce que toi, tu as besoin de penser derrière lui, hein? C'est comme si l'enfant de 4 ans qui vient voir papa à la cuisine et dit « Papa, j'ai parlé avec maman et je ne sais pas comment on va trouver ce qu'elle va manger. Moi, j'ai regardé dans le frigo, il n'y a pas grand-chose. Et comment vous allez faire ?» Vous savez ce que le papa il répond ? « Tu ne t'occupes pas, ce n'est pas ton problème. Moi, j'y pense. Maman, y pense. Toi, eh bien... Fais tes devoirs, travaille, développe, grandis. Et on veut que tu t'épanouisses. T'occupe pas avec des problèmes de qui va payer l'électricité, le loyer, comment est-ce qu'on va payer pour... C'est pas ton problème, mon fils. Ça, c'est le nôtre. Toi, pense à ton avenir. C'est ça qu'on leur dit.
Et après nous, quand il faut le pratiquer dans notre vie spirituelle, on ne sait pas le faire. Il dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et en plus, votre Père Céleste, vous savez qui il est ? C'est Dieu. Il est tout puissant. Vous savez, en fait, Jésus est en train de parler à ses disciples qui ont... On a envie de dire qu'ils sont trop terre à terre. Et c'est pas pour les critiquer, mais bon, c'est comme ça qu'on a grandi. C'est ça la vie. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend à vivre. Mais il leur dit, écoutez, vous savez, en tant que disciples de Jésus-Christ, eh bien, moi, je vous invite à voir plus grand, voir plus loin. Et je vous invite à lever les yeux et regarder plus loin. Vous savez, je ne sais pas si vous avez jamais monté avec un conducteur qui ne voit pas très loin. Qui est tout, bon, peut-être à cause du brouillard, ou peut-être c'est une mauvaise habitude qu'il a, ou bien il a une mauvaise vue, et tout ce qu'il voit, c'est juste les premiers 50 mètres. Eh bien, vous savez comment elle est, sa conduite ? Elle est un peu. C'est un peu. Comment on dit. C'est brusque, c'est saccadé, parce que c'est à la dernière minute qu'il voit quelque chose. Tout d'un coup, il essaie de rattraper, c'est. Il freine tout d'un coup vite parce que tout d'un coup il voit quelque chose devant lui. C'est pas agréable. C'est même, on est tendu rien que d'être là. Et sinon, vous avez un autre conducteur qui est là haut et puis lui il voit loin et vous voyez qu'il anticipe tout ce qui peut arriver et les obstacles et les autres voitures, tout ça, il anticipe tout ça. Puis alors, eh bien c'est régulier comme conduite. Vous savez. Chez les humains aussi, on a des conduites comme ça. Il y en a, c'est constamment, ils sont en train de changer, ceci, cela, puis non, ceci, puis ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient que le besoin immédiat. C'est le plaisir immédiat, c'est le besoin, c'est l'ami immédiat. Ah ben, je l'ai perdu, ah, il m'a quitté, oh, je ne l'ai plus, il ne me parle plus. Et tout d'un coup, c'est la panique. Mais bon, si tu es avec les yeux que pour lui, c'est pour ça que voit plus grand et un monde plus grand et une vision plus grande parce qu'on a un Dieu qui est grand et c'est pas risqué de voir grand et de voir plus loin. C'est sûr que si on écoute le journal du soir, eh bien il y a de quoi paniquer pour le lendemain, mais quand on est le Seigneur, on dit on voit plus loin. Il dit et c'est là qu'il dit à ses disciples, il dit il y a un autre comportement à avoir. C'est pas le comportement du non-croyant, il dit les païens, les non-croyants. Il dit il y a un autre comportement. Il dit, au verset 31, il dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu, dans son rapport sur le sermon sur la montagne, eh bien, lui, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. » Mais Luc dit « Cherchez plutôt. » Si on regarde, écoutez, Matthieu, il dit « Cherchez premièrement. » Bon, c'est important, donner l'importance au royaume de Dieu, puis tout le reste, ça va venir. Et on pourrait se dire « Bon, ben, je ne vais pas me soucier premièrement, mais en deuxièmement, je vais me soucier. » Mais Luc, il dit « Non, non, même pas, plutôt. » N'y pense même pas. Cherche plutôt le royaume de Dieu. Dieu a de grands projets. Dieu veut aller très loin. Dieu veut faire de grandes choses. Et puis, la route d'aujourd'hui, et puis c'est peut-être caillouteux là aujourd'hui, mais bon, c'est rien. Il n'y a pas que ça, la route. Il n'y a pas si longtemps, je suis sorti et j'ai essayé une nouvelle piste là, derrière chez nous, là-bas. Bon, quand ça a démarré, ça avait l'air bien. C'est avec un vélo, là, puis la piste n'était pas trop mal. Je me disais, ça va être intéressant, je vais prendre ça. Mais bon, au bout d'un certain moment, ça commençait à se compliquer. Et puis après, est-ce que je me suis arrêté ? Non. Bon, peut-être parce que je suis fou, mais Bon, j'ai ramassé la bicyclette, j'ai marché, et puis j'étais un peu plus loin, et puis la route, elle reprend. Pourquoi ? Parce que je dis, puisqu'il y a une piste là, et puis j'ai vu des empreintes de vélo, je me suis dit, ça passe, forcément que ça passe. Donc je continue. Je me suis pas arrêté avec l'immédiat, je dis, waouh ! Je dis, non, je veux voir la fin de ce chemin, je veux savoir où ça mène. Et vous savez, dans la vie chrétienne, c'est ça aussi. On passe par des moments difficiles. Il y a des moments où c'est vraiment, il faut porter son vélo. Mais, il y a un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Et le chemin mène quelque part. Et d'autres sont passés par là, et nous voulons les suivre. Donc, vous savez, à premier abord, quand on lit ce passage, on dit, mais Jésus est en train de dire à ses disciples d'être inconscient. Ne souciez pas ni de manger, de boire, de ce que vous allez porter. C'est l'inconscience. Je dis, non, c'est pas de l'inconscience. C'est de l'inconscience quand on n'a personne, quand on n'a pas Dieu. Mais quand on a Dieu, et quand on a un Père céleste qui prend soin de nous, ce n'est pas de l'inconscience, c'est de la foi. C'est pour ça qu'il avait dit, plus haut, il dit, si vous vous posez les questions, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va porter, tout ça, il dit, vous êtes gens de peu de foi. Il dit, ton Dieu, il est petit. Hein. Ton Dieu, c'est un petit porte-bonheur que tu as dans la poche pour toi. C'est tout ce qu'il est pour toi. Ou est-ce que c'est quelqu'un à qui tu peux parler, tu peux faire confiance? Et il nous donne la sagesse. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui flotte dans l'air, c'est quelqu'un qui marche sur terre, mais qui sait où il va. En fait, le royaume de Dieu englobe beaucoup plus que le manger et le boire, dit Paul aux Romains. Romains 14, verset 17, il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Il dit « Va chercher plus grand, il y a plus pour toi. » Et en fait, entre autres, il nous exhorte à donner plus d'importance au bien de ceux qui nous entourent que de chercher notre bien. Il dit finalement, si tu cherches à porter et tu t'intéresses aux autres, tu ne manqueras de rien. Mais si tu ne t'intéresses qu'à toi, eh bien, tu n'auras pas. Et c'est ça la mentalité, la nouvelle mentalité. Et c'est une mentalité qu'on peut avoir seulement si on a la foi. La foi dans notre Seigneur. Je veux lire ce passage en Romains chapitre 14. Il y a plusieurs versets que je voudrais lire, à peu près 6 versets là. Donc c'est Romains chapitre 14 et les versets 15 à 20. Il dit « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. » Ne cause pas pour ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Il dit, quand tu as les yeux fixés uniquement sur... l'œuvre de Dieu ne peut pas s'accomplir. Mais quand tu vois plus grand, et tu te vois comme faisant partie d'un corps de Christ, comme un enfant de Dieu, membre d'une grande famille, avec un Père céleste qui sait de quoi nous avons besoin, et tu commences à penser, à prier, à soutenir, à aider, à apporter, à faire ce que tu peux, eh bien, il dit, tu ne manqueras de rien. le Seigneur, il pourvoit au travers des uns et des autres, il pourvoit. La situation qui se trouvait dans les premiers chapitres des Actes, où tout le monde mettait tout en commun, tout ça, c'était utile pour l'époque. Hein, c'est pas ce mode de vie, hein, on ne vit pas en communauté de cette manière-là. Et ça ne s'est pas fait par la suite non plus. Mais c'était nécessaire là, parce que combien de personnes qui devenaient disciples de Christ se faisaient renvoyer de la maison. Ils n'avaient plus de moyens, plus rien du tout. Donc on se partageait, c'était nécessaire pour les débuts de l'Église. Mais après ça, tout à l'heure, je vous ai lu Paul qui parle à l'Église de Philippe. Eh ben, eux, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui aident. Et le ministère est là, et Dieu dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Vous voyez, nous devons voir grand, et voir comme nous faisons partie de quelque chose de grand et qui appartient à Dieu. Alors il dit pour un aliment, hein, tu te t'aimes. Vous savez, ceux qui ils sont préoccupés avec leur petit besoin de tout ça, à force de s'inquiéter et de te préoccuper avec leur petit leur truc, ils finissent par devenir égoïstes, par devenir égocentriques. Hein, ils pensent qu'à eux, mais c'est tout pour eux. Et vous savez, c'est pas bon. Même les gens du monde, ils savent que c'est pas bien. Mais quand je commence à penser aux autres, je ne suis pas oublié. Déjà, dans un couple, quand je commence, au lieu de penser à moi, je pense à mon partenaire dans le mariage, et le partenaire pense à moi, on pense l'un à l'autre, finalement, il n'y a personne qui manque de quoi que ce soit. Mais quand chacun tire la couverture de son côté, vous savez ce qui arrive? C'est que les deux ont froid. Et ça continue dans la famille, ça continue dans l'Église de Jésus-Christ, ça continue dans la vie. On lit bien les histoires de ceux qui ont donné généreusement pour les autres. Il y a des noms qui viennent à votre esprit, des gens qui ont donné, et puis finalement, ils ont vécu jusqu'à la fin aussi. Hein. Vous savez, des fois, Jésus est en train de dire à ses disciples, écoutez, on pense maintenant, quand on est disciples de Jésus-Christ, on pense autrement. On pense selon d'une autre manière, d'une autre règle. Au lieu de donne-moi, qu'est-ce que je peux partager ? Et ça donne, on vit autrement. Et il dit, surtout, ne vous inquiétez pas, ça n'arrangera rien. Il dit, cherchez ce qui recontribue à la paix et à l'édification mutuelle. Surtout, ne vous servez pas du manger et du boire pour décider si vous pouvez avoir la communion avec un tel ou pas. Hein, des fois, il y en a pour des bricoles, tout d'un coup, ils condamnent quelqu'un et puis on l'élimine. C'est un frère! Ouais, il a peut-être des habitudes un peu différentes, il fait les choses, mais c'est un frère, ne le condamne pas. Peut-être toi tu ne fais pas exactement comme lui, il ne fait pas exactement comme toi, mais il est au Seigneur. Il dit, c'est pas pour du manger et du boire, ou pour une autre petite habitude qu'il aurait, un petit rite, une petite coutume. Si il a reçu Jésus-Christ dans son cœur, s'il a fait foi au sang versé de Christ, et il a confessé son péché à Dieu, il a dit, je veux être sauvé par tout ça, eh bien, il est né de nouveau, il est né de l'Esprit, et il est frère, il est dans le corps de Christ. Et le Seigneur vient jamais demander au pasteur, il dit, écoute, on le prend ou on ne prend pas celui-là? Non, c'est lui qui gère ça. Jésus dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voyez grand. C'est pas juste votre assiette. Voyez plus grand. Il vous a donné le royaume. Ne crains pas, petit troupeau. Tu peux être petit, mais tu peux voir grand. Et en fait,
Cherchons donc plutôt le royaume de Dieu en désirant ce que Dieu, ce que le Seigneur voudrait pour moi, plutôt que ce qui peut satisfaire mes passions. Évitons l'inquiétude, évitons l'égocentrisme, évitons le petit monde restreint de moi-même et où je me sens menacé par tout le monde. Dieu, non, je vois grand, je vois le royaume de Dieu. Je vois le bien du royaume de Dieu. Et le roi, eh bien, c'est mon Père. Que le Seigneur nous aide à penser comme le Seigneur voulait que ses disciples pensent. Nous allons prier. Père Céleste, quand tu as parlé à tes disciples, tu parlais de ton cœur. C'était pour leur donner une meilleure qualité de vie. C'était pour leur donner des ambitions nouvelles. Peut-être qu'ils n'ont pas toujours été appréciés et bien reçus, mais ils n'étaient jamais tristes. Ils pensaient à toi. Ils voyaient plus grand, ils voyaient plus loin. L'apôtre Paul marchait toujours plus loin. Les montagnes, les mers n'étaient pas un obstacle pour lui. Il voyait grand. Et Seigneur, donne-nous de voir grand. Oui, petit troupeau peut-être, mais c'est un grand Dieu qui nous dit « ne crains point ». Seigneur, dans nos jours, et lorsque nous nous sentons un peu faibles et un peu méprisés, eh bien Seigneur, souvenons-nous de ce que tu penses de nous et ce que tu nous as promis. Seigneur, merci pour ces paroles et qu'elles restent avec nous. Et que les petits oiseaux ne viennent pas manger la graine et tout enlever. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.